Oh, Gloire au Seigneur. Loué soit le nom de Jésus. Loué soit celui qui vit au siècle des siècles et qui est présent ce matin encore pour nous bénir, nous enseigner, nous conduire toujours plus loin avec lui. Que son nom soit loué. Alléluia. Merci Seigneur. Il est bon d'être dans sa présence. Il est bon de louer, de célébrer son nom. Alléluia. La parole de Dieu dit qu'il y a d'abondantes joies devant sa face et des délices éternels à sa droite, n'est-ce pas vrai? Et j'aimerais parler précisément ce matin sur cette réalité qui doit toujours devenir une réalité toujours plus grande en nous. J'aimerais parler sur la joie, et tout spécialement les 10 sources de joie de l'apôtre Paul. Lorsqu'il était en prison à Philippe, à Rome, et dans l'épître aux Philippiens, il nous révèle la source même de sa joie lorsqu'il était en prison. On pourrait penser, en lisant l'épître aux Philippiens, qui est l'épître de la joie, que l'apôtre était dans une campagne d'évangélisation, ou pendant un culte, en train de louer le Seigneur, avec d'autres chrétiens, pas du tout. Il est au fond de la prison. Des chaînes aux pieds, certainement. Et cependant, c'est l'épître de la joie. C'est l'épître où nous voyons le cœur de l'apôtre Paul. Nous voyons vraiment son cœur. Et c'est un cœur vraiment qui se réjouit. Et qui conduit, et qui demande aussi aux chrétiens auxquels il s'adresse de se réjouir avec lui. Il leur dit, je me réjouis, réjouissez-vous donc avec moi. Et vous allez le voir, il y a là en tout cas 10 endroits, peut-être qu'on peut en trouver d'autres, mais à 10 endroits, il nous est révélé que l'apôtre se réjouissait, où il parlait de sa joie, et cela nous révèle un peu justement la source de sa joie, la source, 10 sources de joie dans la vie de l'apôtre. Et au fur et à mesure que nous avançons, nous allons voir pourquoi l'apôtre Paul se réjouissait. La première source, nous la trouvons au chapitre 1er et au verset 4. Voici ce qu'il dit déjà au verset 3. « Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous. » Philippiens donc, n'est-ce pas? Non, Philippiens. « Ne cessant dans toutes mes prières pour vous, de manifester ma joie au sujet de la part que vous avez à l'Évangile. Depuis le premier jour jusqu'à maintenant, je suis persuadé que celui qui a commencé cette bonne œuvre en vous la rendra parfaite pour le jour du Seigneur. » Quelle est la première source de sa joie ici? C'est la joie de prier pour les autres. Voyez-vous, il est dit aussi ici, au verset 3, « Ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie, de manifester ma joie. » Donc nous voyons par là, c'est la joie de prier pour les autres. Voilà quelle était une des sources de joie de l'apôtre Paul. « Je ne cesse de manifester ma joie dans mes prières pour vous, » disait-il. Et là, nous voyons que l'apôtre Paul, au fond de sa prison, ne faisait pas une dépression. Pourquoi? Parce qu'il ne pensait pas à lui-même. Dans cette prison, on pourrait penser, et on pourrait penser avec l'apôtre, « Ah, ça y est, comment est-ce que l'apôtre peut être dans cette prison, lui qui a un si grand ministère, lui qui, dont la prédication fait un bien énorme, lui qui a bâti des églises ?» Pourquoi perd-il son temps dans une prison? Pourquoi est-ce que Dieu permet qu'il aille en prison? Dieu permet qu'il aille en prison pour révéler l'état de son cœur et pour nous montrer à nous comment nous devons réagir lorsque nous sommes dans une prison spirituelle. Nous voyons que l'apôtre, on l'avait mis en prison, mais sa foi n'était pas en prison. Sa louange n'était pas en prison. Personne ne pouvait le tenir prisonnier. Il y avait des barreaux devant lui, mais son esprit était libre. Alors la première joie, c'est celle qu'il manifestait lorsqu'il priait pour les autres. Et là, je vous assure, mes amis, il y a toujours une vérité extraordinaire. Lorsque nous cessons de penser à nous, surtout quand tout va mal, nous avons tendance à nous replier sur nous-mêmes, n'est-ce pas? Et à fermer la bouche, et à dire, oh, ça y est, Dieu m'a abandonné, comme Paul, il aurait pu dire, Dieu m'a abandonné, comment ça se fait? Alors, moi, j'ai un travail si grand, pourquoi est-ce que Dieu ne fait rien du tout et me met en prison? Il aurait pu dire tout cela. Il aurait pu s'imaginer que Dieu l'avait abandonné. Mais l'apôtre Paul était un homme qui ne pensait pas à lui-même. Et voilà pourquoi il y avait une source de joie intarissable en lui. Cette joie était, il la trouvait dans la prière pour les autres. Mes amis, n'oublions pas cette vérité capitale. Dans l'épreuve, lorsque nous sentons comme en prison, il est bon, bien sûr, qu'on prie pour les autres, qu'on prie pour vous. Ça, c'est tout à fait normal. Nous devons porter les fardeaux les uns des autres. Mais dans cette épreuve, il est bon aussi que la personne elle-même cesse de penser à elle et commence aussi à penser aux autres. Et quand nous pensons aux autres, alors qu'il est normal qu'on pense à nous, qu'on fait cet effort, qu'on renonce à soi-même pour prier pour les autres, alors il y a en nous une joie céleste qui commence à se manifester comme une source qui coule de notre sein. Alléluia! Et là, c'est un point très important, mes amis. Très important, cette prière pour les autres. Nous en avons besoin, et surtout quand nous n'en avons pas envie, quand nos problèmes, nous sommes harcelés par nos problèmes, nous sommes les derniers à penser aux autres. Mais cependant, l'apôtre, là, il pensait aux autres. Il ne pensait pas à ses chaînes. Quelle joie lorsque nous nous oublions nous-mêmes et nous pensons aux autres. Amen. Il en est ainsi, mes amis. Pensons aux autres. Prions pour les autres. Lorsque nous n'en avons pas envie, et nous découvrirons une joie. Une joie céleste. Alléluia. Cette joie vient de ce que nous renonçons à nous-mêmes et nous pensons aux autres. Gloire au Seigneur. Je ne cesse de prier, de manifester ma joie au sujet de la part que vous avez, que vous prenez à l'Évangile. Et il dit, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette œuvre la rendra parfaite. Il priait. Il était assuré que l'œuvre commencée dans la vie d'un enfant de Dieu, Dieu la rendra parfaite. Amen. Ce qu'il a commencé en toi, Dieu l'achèvera. Ne perds pas confiance en toi et dans les autres aussi. Ne perds pas confiance. Manifeste ta joie. C'est déjà là un acte de foi. Seigneur, je me réjouis de ce que tu as commencé dans le cœur de mon frère, de ma sœur, de mon mari, de ma femme, de mes enfants. Ce que tu as commencé, tu l'achèveras. Alléluia. Mais je refuse de me laisser arrêter par mes problèmes. Je refuse de tourner autour de moi-même. C'est le chemin le plus rapide pour tomber dans la dépression. Mais le chemin le plus rapide pour sortir de sa dépression, c'est de dire, Seigneur, tu vois, je souffre, mais je ne veux pas être rivé sur moi-même. Je veux bénir les autres. Je veux sortir de moi-même. Amen. Voyez-vous pourquoi l'apôtre était joyeux? Il y avait une source en lui, parce qu'il avait décidé de ne pas vivre pour lui-même, de ne pas tourner autour de ses problèmes. C'est en là un point, une vérité très importante, n'est-ce pas vrai? Voilà une première source de joie. Une deuxième source de joie maintenant. Au chapitre 1, verset 18, il est dit ceci. Qu'importe de toute manière, que ce soit pour l'apparence, ou que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. Ici, il se réjouissait de ce que Christ était prêcher. Voilà une autre source de joie dans la vie de l'apôtre. Il se réjouissait de ce que le message de l'Évangile était annoncé. Quelle joie lorsque ce message est annoncé. Et c'est pourquoi lorsque nous parlons du Seigneur aussi aux autres, il y a en nous une joie extraordinaire. Amen. Pas seulement à prier pour l'un ou l'autre, mais aussi en annonçant le message. L'Évangile est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Et nous avons besoin de parler de cela. Nous avons besoin d'exprimer notre joie. Qu'importe, pourvu que le message soit annoncé. Les uns annonçaient l'Évangile ici d'une manière qui n'était pas très belle, parce qu'ils voulaient faire de la peine à l'apôtre. Les autres, c'était sincèrement. Mais ça ne fait rien. Le message est annoncé. Au moins, Christ est annoncé. C'est le plus important. Sa joie. Il n'y avait rien de tel qui pouvait ravir le cœur de Paul lorsqu'on annonçait le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia! Malheur à moi si je ne prêche l'Évangile, disait-il. Malheur à moi, malheur à moi. Mes amis, pourquoi certains chrétiens sont tristes? C'est parce qu'ils ont cessé de parler du Seigneur autour d'eux. Un chrétien qui ne témoigne plus, un chrétien qui ne parle plus du Seigneur autour de lui, c'est automatiquement un chrétien triste. Ce n'est pas possible autrement. Il y a en nous une joie, la joie d'être sauvé. Cette joie d'être pardonné doit être communiquée aux autres. Amen. Et plus nous communiquons ce message, plus nous serons joyeux. Gloire au Seigneur. Vous en avez fait l'expérience aussi, n'est-ce pas? Quand on parle du Seigneur à quelqu'un, il y a là comme en nous une joie, un bonheur. Nous sommes vraiment heureux. Alléluia. Quelle source de joie! Qui peut vous ôter cette source de joie lorsque vous avez décidé d'être un témoin de Jésus-Christ? Amen! Et réjouissez-vous aussi de ce que les autres annoncent l'Évangile. Réjouissez-vous aussi du succès des autres. Alléluia! Pas seulement lorsque vous annoncez l'Évangile, mais réjouissez-vous aussi du succès que ton frère, que ta sœur, qu'un autre a. C'est aussi très important. La parole de Dieu dit, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. Savez-vous que c'est plus difficile de se réjouir avec ceux qui se réjouissent que de pleurer avec ceux qui pleurent? Pleurer, nous avons toujours tendance, notre cœur est là, à pleurer avec ceux qui pleurent. Ça, c'est, nous disons, nous le faisons plus facilement. Mais quant à se réjouir avec quelqu'un qui se réjouit, nous avons de la peine à le faire. Pourquoi? Parce qu'il y a un peu d'orgueil, de jalousie qui est là en nous. Nous disons, comment Seigneur, comment veux-tu que je me réjouisse avec l'autre là-bas? Tu l'as béni, puis moi tu ne me bénis pas. Comment ça se fait, Seigneur? Ça, je ne suis pas tellement d'accord. L'autre est béni et moi, je ne suis pas béni. L'autre a tel don spirituel et moi, je n'ai rien du tout. Seigneur, comment je peux pas me réjouir? L'autre, amener quelqu'un au Seigneur. Voyez-vous, quand quelqu'un d'autre amène au Seigneur et vous ne l'avez pas fait, par exemple. Je ne sais pas, d'abord, cette âme, ça ne tiendra certainement pas. Voyez-vous, là, on a de la peine à se réjouir. Quand quelqu'un se réjouit, et ça, c'est un très mauvais signe. Voyez-vous, l'apôtre se réjouissait même quand les uns prêchaient l'Évangile d'une manière qui n'était pas dans des bonnes motivations. Voyez-vous, il se réjouissait quand même. Quel exemple pour nous, mes amis. Réjouis-toi du succès de ton frère, de ta sœur. Réjouis-toi avec ceux qui se réjouissent. Et tu verras ta joie, amen, de se décupler. Alléluia, c'est très important, très important. Allons un peu plus loin. Une troisième source de joie dans la vie de l'apôtre Paul, chapitre 1 cette fois, et au verset 25. Chapitre 1, verset 25. C'est la joie de la foi. La joie de la foi. Au verset 25, il est dit, « Et je suis persuadé, et je sais que je demeurerai et que je resterai avec vous pour votre avancement et pour votre joie dans la foi, afin que par mon retour auprès de vous, vous ayez en moi un abondant sujet de vous glorifier en Jésus-Christ. » Ici, donc, il est question de « pour votre joie dans la foi ». Mes amis, il y a là une vérité très importante. La foi que nous avons en Jésus-Christ nous donne la vraie joie. Et c'est pourquoi il est vital pour nous chrétiens de manifester cette joie. Car la joie, c'est vraiment pour le chrétien ce qui attire les gens au Seigneur. C'est une des réalités les plus puissantes. dans la vie d'un chrétien. La joie. La joie de vivre avec le Seigneur. Et il n'y a rien de tel pour toucher le cœur de quelqu'un. C'est là une réalité. Alors vous dites, mais moi, des fois, dans ma famille, on est tous un peu tristes. On est tous un peu mélancoliques. Et c'est dans la famille, que voulez-vous? Mais écoutez-moi bien. Mais maintenant que vous êtes chrétien, vous appartenez à une nouvelle famille. Et vous avez un nouveau père. Vous avez un nouveau Seigneur. Et celui-là, il est joyeux. L'Esprit de Dieu que nous avons reçu est un esprit de joie. Nous ne pouvons plus nous justifier en pensant que moi, mon grand-père, ma grand-mère était comme ça et je serai toujours comme ça. C'est une erreur. Nous appartenons à la famille de Dieu et un des signes distinctifs d'un chrétien, c'est la joie. C'est pourquoi il est bon de cultiver cette joie, n'est-ce pas vrai? Mes amis, ça c'est vital. Vital de cultiver cette joie en toutes circonstances. Et quel témoignage aussi. Simplement votre joie peut attirer des gens au Seigneur et vous poser des questions. Simplement votre joie. Leur rayonnement qui est sur notre visage peut faire amener des gens près de nous et dire, mais pourquoi tu es content? Pourquoi? Mais pourquoi tu as ça? Nous, il y a de quoi être triste hein, dans ce monde. Toi, tu es toujours content. Pourquoi? C'est un témoignage percutant. Et c'est là une des réalités de la foi. C'est une foi qui nous rend joyeux. Si notre foi ne nous rend pas joyeux, alors il faut se demander si notre foi, c'est la vraie foi, je vous assure. Il faut se demander si notre foi est la vraie foi. Mais la vraie foi évangélique, biblique, c'est une foi joyeuse. Alléluia! C'est une foi qui se communique aux autres. Il y a un enthousiasme dans la foi du chrétien. L'enthousiasme, c'est un des signes, une qualité du chrétien. Amen! Très important, très important. Je vous assure, celui qui manifeste cette qualité-là, il va attirer les abeilles, comme le miel attire les abeilles. Vous allez
C'était pas le prince, c'était simplement le serviteur.
Oui, bien sûr.
Et je proclame la puissance de Dieu. Jésus devient une chaud.
Ah, voilà.
Je vous ai déjà parlé. J'avais pas ma veille, j'en dis le plus que vous avez. J'ai senti, je suis
la puissance de Dieu. Oui, oui, c'est comme une chaleur.
Je vais proclamer la vérité.
Amen.
Pour que le diable sache qu'il est vaincu.
Amen.
Parce que pour moi, si j'avais pas témoigné, ça m'aurait rongé.
Oh, c'est bien ça.
Oui, ça m'aurait rongé parce que c'est quand vous avez parlé.
C'est ce que Dieu a fait.
Amen. Oui, oui, oui.
Vous avez dit, si vous ne dites pas ce que Dieu a fait, Dieu va reprendre. Et c'est pour cela que je suis venu.
Alors c'est bien. Parce que qui honore, celui qui l'honore. Tu l'as honoré par ton témoignage. Alléluia. Merci Jésus.
Il y a beaucoup pour moi.
Merci.
Les gens ne comprennent pas.
Alléluia.
Mais Jésus me connaît. Et je fais tout pour travailler pour ma destinée. Pour
Amen.
Pour
Jésus. Amen.
Pour plaire à Jésus.
Oui.
Alléluia.
Oui.
Excusez-moi.
Allez-y.
Il y a un monsieur là. Je ne sais pas s'il est là.
Je lui ai dit, je ne sais pas si
j'étais
derrière, et j'ai amené deux garçons que j'ai rencontrés dans
la rue.
Deux jeunes.
D'accord.
Ces deux jeunes, je leur ai parlé du Seigneur.
Oui.
J'ai dit, est-ce que vous voulez venir? Ils sont venus, et ils étaient assis là, mais comme ils avaient un sport, ils sont partis.
Ils sont partis.
Je leur ai laissé mon téléphone.
Oui, c'est bien.
Et ils m'ont dit qu'ils vont venir demain matin, et je les ai sortis. Aussi. Je donnais le prophétie.
Alléluia. Le Seigneur les sauve, les poursuit là-bas. Alléluia, les sauve.
Amen.
Je vous dis vraiment le Seigneur. Oh, gloire à Dieu, alléluia.
Je dis le Seigneur fait des choses.
Gloire à toi.
Le Seigneur fait des choses.
Merci Seigneur.
Des choses que nous-mêmes on ne comprend pas.
Ah oui, c'est ça.
Et je sais qu'il a quelque chose pour ces deux jeunes.
Ah, parce que sûrement. Ah oui, oui, oui. Comment c'est ton prénom?
Mercedes.
Alléluia. Attention à la marche.
Bonjour, je m'appelle Christiane et quand vous avez terminé de parler sur la dépression, j'ai senti mes poumons s'embraser. J'avais chaud, j'étais bien.
Oh, alléluia! Alléluia!
Je sais que le Seigneur est en train de me guérir.
Amen.
C'est pas le
Quoi? Amen. Tu as ressenti une présence là.
Oh là, là mais
c'était chaud dedans. Alléluia, alléluia, Seigneur. Oh. Alléluia, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Seigneur.
Attends, venez par là, maman. Par là-bas.
Oui, c'est mieux parce qu'il y a l'escalier là-bas. Les marches.
Attention.
Va attendre dans le micro. Oui.
Alors, moi, j'ai un problème de circulation de l'arthrose des genoux.
L'arthrose des genoux.
Voilà, je suis opérée, j'ai une prothèse dans chaque genou.
Prothèse dans chaque genou.
Et puis, ça, je souffre avec ça un bon moment.
Tu souffres.
Oui, et toi, étant donné qu'on a dit que le Seigneur guérit les
articulations. Les articulations, les arthroses.
Amen. Je glorifie Dieu.
Amen.
Amen.
Amen. Merci Seigneur. Ça va tes genoux, ça va? Bon. Est-ce que tu sens une petite amélioration, quelque chose?
Je sens une chaleur.
Une chaleur, t'as senti toi aussi? Ah ben oui, c'est un attouchement du Seigneur.
Les cheveux dressés sur la tête.
Les cheveux dressés sur la tête, elle a senti. Amen, amen. Amen.
L'Esprit du Seigneur.
Amen. Gloire au Seigneur. C'est vrai que le Seigneur est merveilleux.
C'est l'Esprit alléluia. Du Seigneur qui est
avec nous. Amen, amen.
Continuez de
quand
croire.
Il nous touche. Hein.
Louez le Seigneur.
Alléluia.
Il a commencé, qu'il achèvera.
Merci Seigneur. Allez.
Est-ce qu'il y a peut-être encore quelques personnes?
Oui, nous aussi, Seigneur. Merci. Sans faire encore... attention à la marche en descendant. Hein. Ça va aller?
Ah, voilà. Il y a quelques personnes encore. N'ayez pas.
Dorothée a parlé de quelqu'un qui a un problème de sang. Et j'en fais partie. Et je le prends pour moi ce soir.
Alléluia.
Parce que je crois que Dieu est en train de passer dans ma vie. Tout à l'heure, j'étais en train de jouer la guitare et j'ai les mains qui sont restées comme ça. Je ne pouvais rien faire.
Oh.
Et pendant que Dorothée, ça me priait et chantait, j'ai refait ma messe. Je bénis Dieu qui est en train de faire son œuvre.
Merci Jésus. Merci Seigneur. Seigneur, alléluia! Tu as passion au milieu de nous, comme tu l'as dit! C'est vrai que tu as passion au milieu de nous. Alléluia! Oui, Jacques?
Il faut que je vienne aussi.
Bien sûr.
Bien. Moi aussi, il faut que je vienne parce que cette semaine, j'ai passé une radio de l'épaule pour une capsulite. Je vous ai dit, c'est beau, ça a l'arthrose, etc. Eh bien, moi, je vais vous dire aussi une chose, ben, je suis guéri.
Amen! Amen.
Alléluia!
Il avait du mal à faire ça.
T'as plus mal à l'épaule. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Oh, le Seigneur a passé au milieu de nous. Il a passé au milieu de nous. Alléluia Jésus. Béni soit ton nom Seigneur. Béni soit ton nom. Alléluia Seigneur.
Alléluia. Le temps passe. La présence du Seigneur est là. Je voudrais juste dire quelques mots. J'apporterai le message que j'ai préparé demain. Maintenant, c'est un peu tard. Mais je voudrais dire un mot après tout ce qui a été dit cet après-midi. Nous trouvons cela dans Marc 16, les derniers versets de Marc. Il faut bien remarquer quelque chose de très important. Pour toute personne qui veut travailler pour le Seigneur, tout ministère, tout prédicateur, qui que ce soit, si nous voulons voir la puissance de Dieu en action, il y a quelque chose qu'il faut bien remarquer. Marc 16, les derniers versets que vous connaissez tous. On peut lire à partir du verset 15. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera
sauvé.
Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Écoutez bien maintenant. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent, donc les disciples, s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole. Soulignez bien ça dans vos Bibles. Et confirmait quoi ? Pas n'importe quoi. Et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Alors il y a là une vérité extrêmement importante. Si Dieu agit, c'est parce que nous cherchons de tout notre cœur et sincèrement à prêcher la parole.
Amen.
Non pas des idées humaines, non pas de nouvelles méthodes, non pas de nouveaux trucs, non pas d'une nouvelle religion, mais la parole. Dieu n'est lié qu'avec sa parole. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Et nous, nous devons veiller sur la parole pour la prêcher. Si tu veux, si je veux que le Seigneur continue d'agir, rappelons-nous d'une chose, il ne confirmera rien d'autre que sa parole.
Amen.
Il est donc important d'être fidèle à cette parole. Et cette parole, c'est quoi ? Tout ce que Jésus et ses apôtres n'ont pas prêché doit être rejeté catégoriquement.
Amen.
Amen. Puisque notre foi est bâtie sur le Seigneur et sur sa parole et sur les apôtres et les prophètes du Seigneur. Et tout ce qui n'a pas été enseigné ou pratiqué par le Seigneur doit être rejeté. Il est donc important. Il n'y a pas de truc magique dans ce que Dieu fait. Ah, j'espère que... Ah, je pense que... Ça ne marche pas comme ça avec le Seigneur. Ah, moi, je voudrais bien que ça se passe aussi avec moi comme cela. Peut-être que ça marchera si je fais quelque chose. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Si tu prêches la parole, si tu es attaché à la parole, si tu veilles sur cette parole, si tu aimes la vérité, parce qu'il y a un prix à payer pour prêcher la vérité. Si tu prêches la vérité, tu seras contesté, tu seras rejeté, tu seras calomnié. Et peu de personnes, et de chrétiens, et de prédicateurs sont prêts à payer ce prix-là.
C'est vrai, c'est vrai.
On a peut-être l'impression que c'est beau, c'est facile. Détrompez-vous. Il y a un prix à payer.
Oh oui, oh oui, oh oui.
D'ailleurs, tous les malades ne sont pas guéris.
Non.
Il nous faut nous rendre à l'évidence.
Bien sûr.
Et c'est bien la preuve que ce n'est pas nous qui guérissons.
Voilà.
Sinon, on pouvait guérir, on guérirait tout le monde. Mais on ne peut guérir pas, ce n'est pas nous qui guérissons, c'est le Seigneur. Dans sa souveraineté et dans sa sagesse et dans son amour, il sait ce qu'il fait. Mais nous devons veiller à cela, être attachés à sa parole et veiller à être fidèles à ce message. Et le Seigneur, lui, s'occupera de confirmer ce qu'il doit confirmer.
Oui.
Mais laissez-moi vous dire autre chose. Si vous voulez rester attachés à la parole, vous serez rejetés parce qu'il y en a beaucoup qui n'acceptent pas cela.
Oui, c'est vrai.
Beaucoup, même dans les milieux chrétiens. Qui contestent cela parce qu'ils cherchent de nouvelles méthodes, ils veulent faire de nouvelles expériences. Et beaucoup viennent dire: ah oui, mais moi j'ai été guéri. C'est pas parce que tu as été guéri que ça vient de Dieu.
Ah oui, c'est vrai.
Toute guérison ne vient pas forcément du ciel.
Voilà.
La Bible parle de miracles mensongers pour séduire. Cela veut dire que le diable est là pour donner un bon coup de main parfois.
aux personnes qui ne prêchent pas la vérité. Parce que quand le diable guérit, bien souvent, il enlève un mal pour le mettre ailleurs.
C'est ça.
C'est peut-être un mal physique qui disparaît, mais il y a un mal spirituel qui vient et qui amène la malédiction sur la personne. Et vous dites, mais c'est grave ce que vous dites là. Extrêmement grave. On ne joue pas avec ces choses. C'est pas parce que tu vas bien d'un seul coup que c'est forcément de Dieu. Il faut que les choses se fassent selon la parole de Dieu. Et si quelqu'un vit dans le péché, qu'il a des miracles, là aussi il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a beaucoup de choses qui amènent beaucoup de confusion dans le peuple de Dieu. Après plus de 40 ans de ministère, le Seigneur nous a appris beaucoup de leçons. Mais parfois il faut accepter de marcher seul avec le Seigneur. Mais un homme avec Dieu est une majorité.
Amen.
Un homme avec Dieu fait partie de la majorité.
Amen.
Il n'y a pas à craindre, mais c'est un prix à payer. La parole, tout ce qui n'est pas conforme à la parole de Dieu doit être rejeté systématiquement. D'où l'importance de connaître cette parole. Si vous ne la connaissez pas, comment pouvez-vous savoir que ça vient de Dieu ou pas de Dieu ? Donc l'ignorance est un piège terrible. Vous pensez que ça vient de Dieu, alors ça vient du diable. D'où l'importance de prêcher la parole, de connaître la parole. Quand Paul dit à Timothée que dans les derniers temps, les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. Et vous savez le remède que Paul donne à Timothée ? Il lui dit, prêche la parole. Insiste, persiste en tout temps, hors saison, continue. Et vous savez, dans l'expression grecque, il y a une vérité importante. Quand Paul lui dit « prêche la parole », le verbe « prêcher », c'est un présent continu. Et en grec, ça veut dire « prêche, 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 prêche la parole, Timothée ». Comme pour dire « ne t'éloigne point de cette parole ». Car les hommes ne supporteront plus cette saine doctrine. Mais toi, tu dois prêcher et prêcher cette parole. Cette parole est la parole même de Dieu.
Amen.
C'est la parole de Dieu qui libère.
Amen.
Parce qu'elle vient de Dieu.
Amen.
Elle est pure.
Amen.
Elle est puissante.
Amen.
Elle est la vérité.
Amen.
Aucune autre parole humaine ne peut produire de tels résultats.
Amen.
Celui qui aime Jésus doit aimer sa parole.
Amen.
Et aujourd'hui, nous avons une telle confusion que vous avez des gens qui disent qu'ils aiment la parole. Oh, pardon. L'inverse. Qu'ils aiment Jésus, mais la parole. On n'aime pas la parole. Pourquoi ? Parce que quand on la lit un petit peu, oh, c'est pas selon mes idées, ça. Mais on m'a dit ceci, on m'a dit ça, oh là là. Mais pourtant, ils aiment Jésus. Ils sont convaincus. Regardez la séduction. Jésus a dit, celui qui m'aime, c'est celui qui
garde
ma parole. La preuve suprême de votre amour pour le Seigneur, c'est votre obéissance à sa parole. Vous ne pouvez pas séparer cela. Et la grande confusion, l'apostasie des derniers temps, c'est cela. Et laissez-moi dire une chose. Nous sommes au courant de beaucoup de choses qui se passent dans l'Église, dans le monde entier. Le pire est à venir. On pense qu'avec Toronto, Pensacola, on a vu les choses les plus mauvaises. Mais le pire arrive. Le pire arrive. Et cela dans les milieux même évangéliques. Attention, je ne parle pas des milieux dans les sectes. Je parle dans nos milieux. L'apostasie concerne le peuple de Dieu. Vous serez étonnés de savoir ce qui arrive. Et ce qui se...
Lorsque nous ne pouvons pas nous réjouir en quoi que ce soit, nous pouvons toujours nous réjouir dans le Seigneur. Amen. Parce que notre joie ne dépend pas des circonstances, ne dépend pas des événements. Nous n'avons pas une foi qui est influencée par les circonstances. Nous avons une foi qui influence les circonstances. Pourquoi ? Parce qu'elle est dans le Seigneur. Le chrétien qui a trouvé sa joie seulement dans le Seigneur, alors qu'il n'y a plus rien d'autre autour de lui qui peut le réjouir, il peut encore se réjouir en Christ. Alléluia ! Encore, réjouissez-vous dans le Seigneur. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, personne ne pouvait l'arrêter. Quelles que soient les épreuves, il pouvait se réjouir encore dans le Seigneur. Mais vous dites, mais voyons, il n'y a plus rien autour de moi qui me pousse à me réjouir. Mais dans le Seigneur, tu peux encore te réjouir. La vraie source est dans le Seigneur. La vraie joie dépend de cette communion que nous avons avec le Seigneur Jésus. Amen. C'est pourquoi, je le répète, réjouissez-vous. C'est un commandement. Réjouissons-nous, faisons un effort. Vous dites, mais j'ai pas envie. L'apôtre Paul ne dit pas, quand tu as envie, tu le fais. Non, parce qu'on ne le ferait pas souvent. Réjouissez-vous, je le répète, réjouissez-vous dans le Seigneur. Quelles que soient les circonstances, vous pouvez vous réjouir parce que le Seigneur est toujours avec vous. Gloire à Dieu. Neuvièmement, chapitre 4, verset 1. Chapitre 4, verset 1. C'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes, mes bien-aimés. Ici, la joie, c'est vous êtes ma joie et ma couronne. La joie ici, c'est la joie d'amener quelqu'un au Seigneur. Les chrétiens de Philippe, c'était les chrétiens que Paul avait amenés à la foi. Vous êtes ma joie et ma couronne. C'était donc la joie de gagner une âme au Seigneur. Je l'ai répété, je l'ai dit tout à l'heure, mais il est bon de se rappeler cette joie-là. Vous êtes ma joie, ma couronne, la joie de gagner des âmes. Amen. La joie de gagner des âmes. Dieu veut nous la donner. Alléluia. Il n'y a rien de plus merveilleux que de cette joie-là. Alléluia. Et pour terminer, au chapitre 4, verset 10, chapitre 4, verset 10, « J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur. » Alors, quelle est cette joie maintenant ?« De ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. » Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Alors, voyez-vous ici, il éprouve une joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Alors, la joie ici, c'est la joie de montrer votre intérêt aux autres. Voyez-vous, l'apôtre se réjouit de ce qu'enfin ils aient pu renouveler l'expression de leur amour. Ce n'était pas tellement l'argent qui comptait pour l'apôtre, mais c'était le geste. Ce geste qu'ils aient pensé à lui, c'est ce qui a profondément réjoui son cœur. Donc ici, il y a la joie de montrer votre intérêt aux autres. Quand vous faites un petit geste, ce n'est pas tellement ce que vous offrez qui est important. Mais c'est le geste qui est derrière. Le geste d'amour, d'attention, qui touche le cœur de quelqu'un. Et c'est là que Paul a été touché. Vous pensiez bien m'aider, mais là, dans la prison, votre geste m'a profondément touché. J'ai vu que vous pensez à moi, vous vous intéressez à moi. Ce petit geste-là, c'est quelque chose qui a profondément réjoui mon cœur. Alléluia! Et là encore, voyez-vous quelle sensibilité nous devons avoir. Toujours, si vous observez que l'un ou l'autre, ou dans votre famille, ou dans l'église, quelqu'un passe par peut-être une certaine épreuve, soyez sensibles, soyons sensibles. Un petit mot, un petit geste, où vous exprimez vos sentiments, touchera le cœur de l'autre. Il nous faut faire cela, parce que bien souvent, nous prenons l'habitude de ne jamais manifester nos sentiments. C'est une erreur. Nous aimons les gens, nous aimons nos frères, nos sœurs, mais nous avons de la peine à manifester ces sentiments. C'est une erreur, mes amis. Vous vous rendez compte? Si tous au milieu de nous, personne ne manifeste des sentiments d'amour et d'affection ou de reconnaissance, je vous assure, ça crée un drôle de climat, n'est-ce pas vrai? Et même si on disait, ah, mais c'est dans mon cœur, moi c'est dans mon cœur, oui. Est-ce que c'est suffisant? C'est pas suffisant. C'est comme entre mari et femme, quand il y a de l'amour, cet amour doit s'exprimer, n'est-ce pas? C'est tout à fait normal. Et au milieu de nous aussi, et c'est ce qui a touché Paul, vous avez pu enfin exprimer vos sentiments, et c'est là quelque chose de très précieux, mes amis, très précieux. Et dans les moindres petits gestes, vous pouvez faire beaucoup de bien. Exprimez vos sentiments. N'attendez pas que l'autre le fasse, faites-le vous-même, toujours le premier, faites le premier pas. et faites le premier geste, et vous verrez ainsi votre joie grandir. Amen. Vous aurez une source, et nous aurons une source de joie. Alléluia. Je veux toujours plus veiller à cela. Veillons toujours à ce que nous soyons là pour exprimer ce que nous avons dans notre cœur. Amen. Nos sentiments. N'ayons pas peur de les exprimer. Et ça doit couler de tout notre cœur. Ça doit se faire simplement. Et je vous assure, quelle bénédiction lorsque nous faisons cela. Amen. Alléluia. Okay, voyez-vous, alors, pourquoi cette épître était vraiment l'épître de la joie? L'apôtre savait observer les moindres petites choses. Il n'y avait rien qui était secondaire pour lui. Au contraire, il pouvait se réjouir, quelles que soient les circonstances. Et nous pouvons aussi réjouir le cœur de nos frères et de nos sœurs, quelles que soient les circonstances, par un petit geste, par une petite parole. Et surtout, Noël est là. Noël, c'est quoi ? Noël, le jour de Noël, il y a eu une grande joie aussi. L'évangile est un évangile de joie. Avez-vous remarqué, lorsque les anges sont venus parler aux bergers, je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie, alléluia, une grande joie, car il vous est né aujourd'hui dans la ville de David, un sauveur qui est le Christ, le Seigneur, le sujet d'une grande joie. Le ciel est en fête, les anges étaient en fête lorsqu'ils apportaient ce message, amen. Et les mages aussi, avez-vous remarqué, les mages quand ils ont apporté aussi leur trésor devant le petit enfant. Il est dit que lorsqu'ils virent l'étoile qui s'est arrêtée sur le lieu où Jésus se trouvait, il est dit que lorsqu'ils virent l'étoile, parce qu'il y avait quelque chose d'exceptionnel dans cet événement surnaturel, il est dit que leur cœur fut rempli d'une joie, d'une très grande joie. Très grande joie. Alléluia. Très grande joie. Quelle chose extraordinaire. Et vous savez, l'évangile aussi se termine par la joie. Avez-vous remarqué dans Luc au chapitre Luc 24, quand Jésus est monté au ciel, il était à Béthanie, il les a bénis. Et quand il montait au ciel, les disciples, voyant Jésus monter, il est dit qu'ils l'adorèrent. Ils retournèrent à Jérusalem dans une grande joie. L'évangile commence avec une grande joie et finit par une grande joie. Alléluia. Tout est comprimé dans cette joie. Mes amis, la joie est vitale, que nous puissions toujours exprimer cette joie. Et notre témoignage portera aussi du fruit, je vous assure. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen.